Bon, notre société est bien fragile, hein, finalement. Avec tout ce qu'on voit autour de nous, c'est impressionnant. Et pourtant, même avec ce qu'on voit, on a quand même un certain confort encore. J'avais envie de commencer en vous partageant le témoignage qu'Isabelle m'avait partagé. Peut-être d'autres l'ont reçu aussi. C'est bon, vous m'entendez? Super. Isabelle m'avait envoyé un WhatsApp où il y avait un témoignage de deux pasteurs dans une ville du Moyen-Orient qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de témoigner de l'évangile à des musulmans convertis au christianisme. Donc l'imam du village a appris ça, il les a pris, il leur a demandé d'arrêter, de renoncer, et ils n'ont pas voulu, donc il les a mis en prison pendant plusieurs jours. Et puis, ces deux pasteurs ont ensuite été confiés à un groupe de terroristes qui leur ont demandé de renier leur foi en Jésus. Et là encore, ils ont refusé, sous peine de mort, mais ils ont refusé. Et ils ont été remis en prison. Et comme ils refusaient de renier leur Sauveur, leur Jésus, leur Seigneur, eh ben, ils ont été amenés sur le lieu d'exécution. Et on leur a ligoté les mains, on les a mis à genoux. Et au moment où les bourreaux, ils allaient les décapiter, les deux pasteurs à genoux, ils ont une vision, ils voient Jésus dans les cieux, glorifié, plein de gloire, avec des anges qui l'adoraient. Et cette vision, elle les a tellement remplis de joie qu'ils se sont mis à louer Dieu à haute voix. Et alors qu'ils ont commencé à louer Dieu à haute voix, les couteaux des bourreaux sont tombés. Et ils ont été tellement saisis de crainte qu'ils se sont enfuis. Et les chaînes qui tenaient les pasteurs s'est défait. Et au lieu de partir en courant, ils sont restés. Ils ont adoré leur Dieu, ils l'ont remercié, ils l'ont glorifié. Et ensuite, ils se sont relevés des anges, ils ont conduit ailleurs et l'histoire, elle continue. Waouh, ça m'a bouleversée d'entendre ça. Cette gloire dans un moment pas de gloire. Et c'est pour ça que je dis qu'on vit quand même dans un certain confort. On ne doit pas dénigrer notre confort aujourd'hui. Mais que notre confort ne soit pas non plus un lien qui nous empêche d'entrer dans ce que le Seigneur y veut pour nous. Et ça, des fois, ce n'est pas évident pour nous. Je me suis posé la question au tout début des histoires des Gilets jaunes. Je me suis dit, oh, peut-être qu'à la fin de la semaine, on n'aura plus d'essence, peut-être qu'on n'aura plus grand-chose dans les magasins. Et si les choses qui normalement sont automatiques, si ça s'effondrait? Là, j'ai pensé à vous. J'ai dit, j'espère que mes frères et sœurs, ils auront de l'essence pour aller travailler. J'espère qu'ils auront à manger. Comment est-ce qu'on s'organise s'il arrive quelque chose comme ça? Alors, bien sûr, je suis allée un peu vite, hein. Mais si ça s'effondrait, qu'est-ce qui resterait? Dans les pays où les gens y perdent tout, qu'est-ce qui reste? Et deux choses qui restaient pour moi, c'était les relations. Et la prière, la relation avec Dieu. Et là, je vous parle d'urgence, je vous parle de scénario catastrophe, mais la Bible, elle met une certaine urgence dans son message. Elle dit, attention, Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans hein, qu'ils disent ça dans la Bible, mais dès le départ, attention, il revient bientôt. Parce que je crois que quand il y a cette notion d'urgence, ça nous donne une autre perspective de notre vie pour organiser ce qu'on fait, pour les priorités, etc. Et on a besoin un petit peu, nous, avec notre cerveau humain, de ce sentiment d'urgence, de se dire, ok, le plus important, c'est Christ. Et ne nous laissons pas enchaîner par les choses confortables de ce monde. Je voudrais lire un premier passage. Dans Acte 4, s'il y en a qui ont leur Bible. Les disciples, ils avaient été remplis du Saint-Esprit il n'y a pas très longtemps. Ils étaient pleins de feu, pleins de puissance de l'Esprit. Et il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges dans cette ville de Jérusalem. Elle était en ébullition de voir la gloire de Dieu. Et Pierre et Jean, ils ont été convoqués. On leur a dit, s'il vous plaît, arrêtez de faire tout ça. Et Pierre et Jean, ils ont dit, est-ce qu'on obéirait plutôt aux hommes qu'à Dieu ? Et ils ont refusé d'obéir. Donc ils leur ont fait des menaces. Et acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, c'est leur prière. Quand ils ont, après avoir reçu ces menaces, ils se sont retrouvés avec les autres disciples. Et ils ont fait cette prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentive à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Là, il y a de la gloire encore. Il y a de la puissance de Dieu. C'est magnifique. Et ce matin, j'avais envie de vous parler de la prière. Ça fait plus d'un mois que le Seigneur il est en train de remuer mes tripes avant les gilets jaunes, avant tout ça. Je crois que le Seigneur il a un message pour nous au niveau de la prière. Et je vais aborder deux points. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la prière ? Et ensuite, comment prier ? Et ensuite, on prendra un temps pour prier ensemble aussi. Alors, la prière, qu'est-ce que c'est ? Je vais essayer. Est-ce que c'est une récitation ? Est-ce que je récite quelque chose ? Est-ce que c'est un monologue ? Finalement, je parle à Dieu comme ça, ou une liste de courses. Je lui dis tout ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est ? On voit dans 1 Samuel... Il y a Anne. Anne, c'est la deuxième femme d'Elkana. Et elle n'a pas d'enfant, alors que l'autre femme, elle en a. Et c'est dur pour elle. Elle se sent dénigrée. L'autre femme là, se moque d'elle parce qu'elle ne peut pas enfanter. Quelle douleur pour elle. Quel rejet. Et à un moment donné, elle va dans le temple. Elle se met à genoux et elle dit, elle exprime à Dieu sa douleur. Elle exprime son amertume, sa souffrance. Et la promesse aussi que si Dieu lui donne un enfant, elle le donnera à Dieu. Dans ce moment-là, il y a de l'authenticité. Anne, elle n'exprime pas juste quelque chose qu'elle a appris, mais la vérité de son cœur. David, dans tous les psaumes, il exprime son cœur, la vérité de ce qu'il ressent, la vérité de là où il en est aujourd'hui. Et Jésus aussi, dans le jardin de Gethsémané, il exprime la vérité. C'est dur d'accomplir la promesse. Il l'exprime. La prière, elle est authentique. C'est une relation authentique et réelle avec mon Dieu. Dans la prière, on peut exprimer la douleur, on peut exprimer la reconnaissance, la louange à Dieu. Parfois le combat. Il y a Épaphras dans les Actes, je crois, ou non, dans un autre livre, qui combat dans la prière pour les saints, pour que la volonté de Dieu leur soit connue. Un combat aussi parfois. Parce que quand on prie, prier c'est demander à Dieu des choses des fois qu'on ne voit pas encore. C'est pas palpable, mais c'est spirituel. Nous on voit, je vous vois, c'est naturel. Mais il y a le spirituel qu'on ne voit pas. Et quand on prie, on demande à Dieu que ce qui est surnaturel vienne sur la terre. Et des fois il y a un combat. Des fois il faut se saisir de cette promesse-là. Dans l'histoire de Daniel, le petit garçon déporté à Babylone, qui continuait de prier malgré le fait que ce n'était pas du tout la tradition de ce pays où il a été. À un moment donné, il a voulu connaître la volonté de Dieu pour sa nation. Il voulait savoir, Seigneur, c'est quoi que tu veux pour mon peuple ? Alors il s'est arrêté, il a prié, il a jeûné pendant 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, un ange vient le voir et lui dit, Daniel, dès que tu as commencé à prier, je me suis mis en marche pour venir t'apporter la réponse. J'étais empêchée par X raisons spirituelles, mais maintenant je suis là. Des fois ça tarde, mais il y a quelque chose qui se passe. Et quand les réponses ne viennent pas tout de suite, persévérons. Dans les psaumes, psaume 4, verset 4, « Éternel, tu entends quand je crie à toi. Alors je vous rassure, on n'est pas obligé de crier. Hein. Dieu nous entend si on chuchote aussi. Dieu, il entend si on parle dans nos têtes, dans notre cœur. Mais il entend. Il entend. J'ai pris un verset, mais il y en a plein dans la Bible où Dieu dit « j'entends ». Salomon, au moment où il a construit le temple, il inaugure ce temple, la présence de Dieu, elle vient au milieu de ce temple, elle est manifestée là-dedans. Et Dieu fait la promesse à Salomon et à tout le peuple, il dit « Le jour où vous serez écarté de moi, vous aurez fait ce que vous voudrez, mais que vous revenez à moi, que vous vous humiliez, que vous priez dans ce lieu ou en direction de Jérusalem, je vous répondrai. Je vous répondrai. » Il fait cette promesse et je crois qu'elle s'applique à tous. Quand on se détourne, quand on réalise quelque chose, mais qu'on s'humilie, qu'on vient devant Dieu, il revient, il nous bénit, il entend et il répond. La prière, c'est pas juste « s'il te plaît Seigneur, que demain ça se passe bien ». Des fois nos enfants ils prient comme ça. C'est pas juste ça. Parfois on exprime à Dieu quelque chose et parfois il faut insister. Jésus nous laisse une parabole d'une personne qui se lève en pleine nuit parce qu'elle a besoin de pain. Et son ami lui dit « écoute, je suis déjà couché, mes enfants sont couchés, ma femme est couchée, reviens un autre jour, j'ai besoin de ce pain. Écoute, s'il te plaît, reviens un autre jour, c'est pas possible, j'ai fermé la porte, j'ai besoin de ce pain. » Et finalement, il lui donne, pas juste pour lui faire plaisir, mais surtout pour qu'il arrête de lui casser les pieds. Est-ce qu'on a cette insistance-là quand on prie ? Et la prière, c'est pas juste la mienne, c'est pas moi qui fais mon petit caprice dans mon coin de dire « Oh, moi je veux ça parce que c'est à moi ». La prière, elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On peut prendre Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand on a envie de prier, en fait, ce n'est pas nous qui avons envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous réveiller et qui nous donne envie de prier. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Oh, ça m'a bouleversée de comprendre ça. Ce n'est pas moi qui fais un effort, je devrais plus prier. En fait, c'est le Saint-Esprit, il est en train de réveiller cette faim et cette soif dans mon cœur. Alors, c'est qu'il est à l'œuvre déjà. Même quand la pensée vient, je voudrais prier, il est déjà à l'œuvre. Quand je prie, ce n'est pas avec mon âme ou avec mes sentiments. Bien sûr, ça en fait partie, on les montre, mais on ne base pas notre prière sur ça. Les Français sont très doués, ils apprennent très vite à donner leur avis, à avoir un esprit critique sur les choses. Ils répondent facilement. Mais parfois, ce n'est pas juste prier comme nous, on a l'habitude avec notre raisonnement. C'est dire, « Ok, Saint-Esprit, c'est toi qui fais naître la prière dans mon cœur, et c'est ça que je veux prier. » Parce que la prière, ce n'est pas un bras de fer avec Dieu. Ce n'est pas « Oh Seigneur, je veux que ta volonté, elle plie à la mienne. » Non, ce n'est pas ça. Si l'Esprit, il nous donne envie de prier, c'est qu'on est partenaire avec Dieu. On est partenaire de ses promesses. Ce n'est pas non plus « On arrive dans un immense trône et nous, on est tout petits, on tremble et on n'ose pas donner notre requête. » Non, on est partenaire avec Dieu par son Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Sinon, on est bien ordinaire. On a besoin du Saint-Esprit. Dès le départ dans la Bible, avec le jardin d'Éden, la présence de Dieu était là pour rencontrer Adam et Ève. Ensuite, il y a eu la chute. Les hommes, ils ont voulu faire comme ils voulaient. Moi aussi, tiens, je voudrais savoir ce qui est bien, ce qui est juste et pas juste. Et il y a eu cette séparation. Et ensuite, il y a eu le tabernacle, la présence de Dieu de nouveau, manifestée en un endroit au milieu du peuple d'Israël. Et puis, il y a eu le temple que Salomon a construit. Encore une fois, la présence de Dieu manifestée là. On venait prier là. Et ensuite, Jésus est venu. Jésus est venu et quand il est mort sur la croix, en portant nos fautes, en portant notre culpabilité, le voile s'est déchiré. Et il a dit, maintenant, ma présence, elle n'est pas limitée à un endroit, mais elle est accessible à tous. Et il est parti au ciel. Les disciples étaient tristes, mais il a dit, mais il vaut mieux que je m'en aille, parce que je vous donnerai mon esprit. Et de cette façon, je serai avec vous tous les jours. Et aujourd'hui, il est avec moi le Saint-Esprit. Et si je bouge ici, il est avec moi le Saint-Esprit. Il est partout. Il est dans nos foyers. Il est partout. On n'a pas besoin d'un lieu particulier. Il est partout le Saint-Esprit. Et on a besoin de lui. C'est lui qui connaît la volonté du Père. C'est lui qui connaît et qui nous donne de prier comme il faut. Et quand on s'approche de Dieu, on prie le Père au travers de Jésus, dans la communion du Saint-Esprit. C'est magnifique, c'est une expérience extraordinaire. Et pour finir, le cinquième point, la prière, elle est liée à une action. Dans la parole de Dieu, on voit qu'il y avait un temps de persécution et les gens se retrouvaient pour prier. C'était tellement important, c'était vital. Ils se retrouvaient pour prier. Et puis, Pierre a été arrêté. Et les disciples se sont retrouvés, enfin les croyants se sont retrouvés pour demander qu'il soit libéré. Et il a été libéré de prison. Parfois les gens, les croyants se sont retrouvés pour prier et le Saint-Esprit a parlé et ça a permis d'envoyer des ministères ailleurs. D'autres fois, ils ont prié pour la paix du pays, pour les autres croyants, pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu. La prière est liée à une action. Elle n'est pas déconnectée de ce qu'on vit, déconnectée des réalités, mais elle accompagne et elle amène la volonté de Dieu sur terre. On a besoin de cette action dans nos vies. On a besoin. Ce n'est pas une option. Alors David, il m'a aidée. Il est très fort en jeu de mots, mon mari. Et il me disait, mais en fait, prière au pluriel, si on change les lettres... Oups. Ça fait respire. Et je crois que c'est fort ce mot-là. On a besoin de la prière. C'est comme une respiration. Et si on ne prie pas, il nous manque un peu d'oxygène spirituel. Il nous manque un peu. Alors bien sûr, prier, ce n'est pas facile. Pour moi, c'est souvent un combat. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai mon agenda et tout d'un coup, dans la journée, je sens « Ah, j'aurais envie de prier ». Je me dis « Ok, Véronique, ce soir, tu pries ». Et je fais ma journée et le soir, il y a des aléas et en fait, le soir, je ne peux pas. « Ah non, zut, bah demain matin ». Mais le soir, je suis motivée. Mais le moment où je me réveille, oh, ok, je n'ai pas la même motivation pour prier d'un coup, donc c'est plus dur. « Ah, mais je prierai un autre moment ». Et en fait, mon temps de prière, il se déplace dans la semaine. Est-ce que ça arrive à d'autres ou qu'à moi? Merci. C'est pas évident. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, Véronique, il faut que tu arrêtes de dire quand tu as envie de prier, il faut que tu planifies quelque chose. Non, c'est quand tu as envie de prier, tu pries. Et quand tu penses à quelqu'un, eh ben tu pries. Alors, tu peux prier dans ta tête, tu peux prier dans ton cœur, mais tu peux peut-être trouver un endroit et juste tu plies le genou et tu pries et tu intercèdes. Et si on le faisait tout le temps? Dès que ça vient, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Et si on était obéissant à ce qu'il nous dit? Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi. » On a besoin de demeurer en lui. Jésus nous a montré l'exemple. Dans le jardin, dans sa vie, en fait, durant ces 3 ans, il était soumis à la pression, les gens voulaient être guéris. Les gens, ils voulaient être libérés, ils avaient soif, ils reconnaissaient qu'il avait les paroles de la vie, quelque chose d'extraordinaire. Et il le pressait de toutes parts. Et lui, il prenait du recul, il allait prier son Père. Pourtant, il était Dieu, hein. Mais il nous a montré un exemple extraordinaire. il se mettait à l'écart, il prenait un temps particulier et il priait son Père. Il a montré cet exemple et ses disciples, quand il est parti, ils ont fait pareil. Ils se sont retrouvés pour prier. Et c'est important cet exemple-là. Dans les familles, les parents ont besoin de prier. Est-ce que les enfants voient les parents prier? Est-ce que dans l'église, au niveau des responsables, dans tous les domaines, est-ce qu'on voit prier? Est-ce que quand on se retrouve, on prie? La Bible, elle nous dit prier en tout temps. De toutes sortes de prières, des supplications, la reconnaissance, tout. Et donc, on peut prier, je pense, à chaque moment que le Saint-Esprit nous met. Et je pense aussi que c'est important d'avoir des moments particuliers pour prier, où on a un peu plus de temps que juste au boulot entre deux dossiers parce qu'on sent quelque chose. Mais je pense que c'est important d'approfondir cette relation avec Dieu. Et ce n'est pas évident parce que notre cerveau, il aime bien zapper. Et il faut savoir s'arrêter pour passer du temps avec Dieu. Alors, les disciples, ils voyaient bien que Jésus, il prenait un temps à l'écart régulièrement. Et ils lui ont dit, mais Jésus, mais apprends-nous à prier. Et il leur a appris. Il leur a donné un modèle. Et avant ce modèle, il donne quelques indications. Si vous voulez, vous pouvez prendre Matthieu 6, au verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Va dans le lieu secret. Il fait référence aussi aux pharisiens qui priaient à haute voix et devant tout le monde parce que c'était une façon de se montrer qu'on était bien, qu'on était religieux, que voilà. Et Jésus dit, mais il n'y a pas besoin de faire ça. Va dans le lieu secret. Et c'est important d'avoir un lieu secret, un endroit particulier peut-être chez vous, dans votre jardin, près d'un arbre. Trouvez un endroit où vous aimez passer du temps avec Dieu. Et un lieu secret aussi, c'est loin des regards de ce qu'on met sur Facebook. Je faisais ce parallèle-là dans ma tête, je me disais, mais en fait, des fois, ce qu'on montre sur Facebook, ben, on est un peu pharisien, parce que ça montre une image de nous qu'on n'est pas forcément à l'intérieur, mais on peut aussi être tenté des fois de mettre notre piété sur Facebook, ou de mettre des choses. Est-ce que c'est pour que les gens voient qu'on est bien? Peut-être, je ne sais pas, peut-être pas. Mais Dieu nous dit... C'est important ce que tu vis toi dans ton cœur, dans l'intimité avec ton Dieu. Trouve un lieu secret, familier, et ferme la porte. Éteins toutes les distractions, éteins ton téléphone, même pas en vibreur parce que tu vas entendre la vibration. Mais silencieux carrément, prends un temps avec Dieu. Et un petit conseil, prenez un bout de papier. Parce qu'au moment où vous allez vous dire, là je vais prendre un temps avec Dieu... Il y a le silence qui s'installe et vous dites oh, « j'ai oublié de mettre la machine en marche. »« Ah non !» Ou « Ah, je devais appeler cette personne. » Et là, ça nous distrait. Alors prenez un bout de papier et vous marquez tout ce qui vous viendra. Et comme ça, vous l'oubliez et vous vous concentrez sur Dieu. Il n'y a pas besoin non plus de multiplier les paroles. C'est ce qui est dit à la suite, Jésus. Ne multipliez pas vos paroles. Bien sûr, il faut parler. Mais c'est un dialogue. Dieu veut aussi parler. Alors, qu'est-ce que nous a enseigné Jésus? Il nous a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ah, il y a tout qui s'est affiché, d'accord. Je pense que cette prière-là, elle n'est pas magique quand on la récite. Ce n'est pas une formule magique qui va nous rapprocher de Dieu. Mais je crois que dans cette prière, il y a des éléments indispensables qu'on doit avoir dans notre prière, dans notre relation à Dieu. Et je voudrais qu'on puisse prendre les points un après l'autre et voir, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi quand je prie mon Père ? Notre Père qui est aux cieux, mon Père, est-ce que j'ai conscience de cette filiation ? Je ne suis pas un mendiant ou je n'ai pas un état d'esprit d'orphelin quand je viens devant mon Dieu. Je suis son fils, sa fille. Et c'est un bon père. Même si moi, je n'ai pas connu un bon père, etc. Lui, il est bon et il veut des bonnes choses pour moi. Donc ça change ma manière d'aborder la prière et d'aborder Dieu. Il est mon père et il est aux cieux. En même temps, il est majestueux dans sa gloire et en même temps tellement intimement conscient de mes besoins. Que ton règne, que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, que ton nom soit reconnu pour vrai, soit reconnu pour saint. Notre désir de voir Jésus véritablement glorifié dans notre génération, là où on est. On prie ça, on demande que tu sois Jésus manifesté dans ma famille, manifesté dans mon travail, que tu sois reconnu comme le véritable Dieu dans ma nation. Que ton règne vienne. Un désir urgent de voir le règne de Dieu sur terre, au travers de l'avancement de son royaume. Je prie pour ma nation, je prie pour mes amis, pour mes collègues, pour mes voisins, pour que son royaume avance, pour qu'il y ait des implantations d'églises, pour prendre soin des nouveaux croyants. Et que la gloire de Dieu, elle soit déversée de façon puissante avec des signes, des miracles et des prodiges. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie pour ma vie, pour que je connaisse sa volonté. Je prie pour ma famille, mon mari, mes enfants, que la volonté du Père leur soit connue, pour mon Église, pour vous, pour tous ceux qui sont dans ma sphère. Qu'on soit conscient de la volonté de Dieu pour nos vies. Qu'on ne se lance pas juste dans des choses, comme Paul y disait, je bats pas inutilement, mais je veux que ce que je fais ait un impact. Et bien, de connaître la volonté de Dieu, ça évite de se lancer dans plein de choses et se disperser, mais qu'on soit conscient de ce que Dieu veut pour nous maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On sait que Dieu prend soin de nous, et pourtant il nous dit, mais demande, donne-nous aujourd'hui. Parce que Dieu ne veut pas nous donner en avance. Il veut que tous les jours, on dépende de lui. Comme dans Jean 15, celui qui est attaché à moi, prenez un sarment, coupez-le, il ne tient pas longtemps sans être greffé, sans être accroché au cep. On a besoin de rester quotidiennement, tous les jours, connecté à Dieu. Alors je prie pour que Dieu il pourvoit à mes besoins matériels, à mes besoins physiques, à mes besoins spirituels, à tout ce qui me vient. Oui, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous avez vu que dans la prière de Jésus, on ne commence pas par se flageller et demander pardon et... On commence par reconnaître qu'on est ses fils et c'est important. Mais il y a un moment aussi, dans le temps de prière, où on est attentif et où on demande à Dieu de nous montrer là où on n'a pas été correct, là où on a fauté, là où on était à côté, de façon active, mais de façon passive. On recherche la clarté de Dieu sur nous, sur notre façon de penser, notre façon d'agir. Et on lui demande pardon, pas de façon générale pour tout ce qui serait arrivé, mais de façon spécifique. De la même façon que le pardon, il est aussi accordé de façon spécifique. Éveille ma conscience, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je veux demeurer dans ta protection, Seigneur. Continue de me libérer de toutes sortes de mal, de tous les désirs que le monde peut offrir, de toutes les tromperies du diable et des subtilités de la chair. Je veux rechercher cette libération continue. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Dans certains écrits, ce dernier, il n'y est pas. Mais je pense que ce n'est pas grave. Finir avec une célébration, finir avec une louange, c'est tellement bon. Remercier Dieu pour qui on a réalisé qu'il était. Remercier Dieu pour ce qu'il nous a peut-être montré dans ce temps de prière. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on doit faire tous ces processus. C'est comme à chaque repas, on ne mange pas tous les nutriments dont on a besoin. Mais ça s'équilibre sur une journée, ça s'équilibre sur une semaine. Et je pense que ces nutriments-là, ils sont importants dans notre prière. Je vous ai préparé... Je vous ai préparé pour cette semaine une petite feuille que vous recevrez par mail avec un récapitulatif des points de la prière de Jésus et concrètement ce que ça implique. Parce que je pense que c'est important qu'on puisse prier, qu'on puisse apprendre à grandir dans la prière. Peut-être pour certains c'est plus facile que pour d'autres, mais je crois qu'il y a une réelle puissance. Dieu, il veut éveiller quelque chose de puissant en nous au travers de la prière. Et vous allez recevoir cette feuille par mail. Je vous encourage dans les groupes de vie à prendre un temps pour prier. Et je vous encourage, si vous ne faites pas partie d'un groupe de vie, trouvez quelqu'un cette semaine. C'est vraiment le défi que je lancerai à l'église cette semaine-là. Trouvez quelqu'un, une ou deux personnes avec lesquelles vous allez prier. Et priez vous aussi. Plus, prions. Prions. Parce qu'en priant, on rencontre Dieu. Et au contact de sa présence, on est aussi transformé. Et la vision qu'on a des choses, elle est transformée. Et on a besoin de ça. On a tellement besoin de ça. On est des êtres tellement ordinaires, mais avec son esprit, on fait des choses extraordinaires. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce matin, je sentais que le Saint-Esprit, il voulait vraiment nous éveiller. Il voulait éveiller son peuple à une façon nouvelle de prier. Par la prière, pour que son royaume avance. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est son royaume qui s'est approché. C'est son royaume qui progresse. Et c'est son royaume, c'est un royaume d'amour, un royaume de justice. Et on a besoin, et c'est un royaume de paix. Et on a besoin de son royaume. Et quand on accepte Christ dans notre vie, dans un royaume, il y a un roi. Et Jésus, tu es mon roi. Dans ce royaume-là, je veux apprendre mon roi. Comment tu veux qu'on se comporte? Comment tu veux que je prie? Parce que oui, je veux que ton royaume il soit répandu. Et tu as choisi de nous utiliser pour que ton royaume soit répandu. Il veut nous révéler son plan, sa volonté, sa vision. Comme Moïse, il était sur la montagne du Sinaï et Dieu lui a donné la vision du tabernacle, il lui a donné la vision des lois, des tables de la loi. Et quand il est descendu, après ces 40 jours, le peuple qui s'impatientait, il a perdu patience. Et quand il est redescendu, il a vu l'idolâtrie, il a été confronté à l'idolâtrie du peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a cassé les tables, mais il est remonté sur la montagne. Et nous, des fois, ça nous arrive. On passe du temps avec Dieu, on reçoit une révélation de sa part, on revient dans le monde réel, confronté aux choses, aux enfants qui crient, à tout. On se dit, oh là là, oui, mais ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Alors remonte sur la montagne pour attraper la vision de Dieu. Et s'il n'avait pas refait, il n'y aurait peut-être pas eu le tabernacle. Mais le Seigneur, il va nous donner des choses dans ces moments. Attrapons-les et allons-y. N'ayons pas peur de la persécution. N'ayons pas peur. La persécution, ce n'est pas une conséquence de Dieu qui punit son peuple. La persécution, c'est la conséquence d'un royaume qui est manifesté là où il y a de l'opposition. Et il y a de la gloire qui s'accompagne à ça. Les disciples, plus tard, dans la prière que j'ai lue, ils ont donc continué à faire des miracles. Et donc, les responsables, ils les ont pris et ils les ont battus. Ils sont ressortis remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir avec Christ. Nous, on ne connaît pas ça ici. On ne connaît pas. Mais est-ce qu'on va oser aller au-delà? Est-ce qu'on va oser sortir de notre barque pour faire ce que le Christ nous demande? Ou est-ce qu'on reste dans notre confort? Est-ce qu'on ose sortir? Est-ce qu'on ose aller parler au risque que ça nous coûte quelque chose? Le Saint-Esprit sera toujours là. Hein? Il sera toujours là. Il nous donnera toujours les bonnes paroles, toujours l'assurance que la gloire ici, elle n'est rien comparée à la gloire là-haut. Il sera toujours là. Quand j'ai commencé à préparer ce message, tout d'un coup, j'ai entendu dans ma tête, dans mes oreilles, un gros bruit, comme des sabots d'un cheval qui galopait. Il n'y avait pas un cheval, c'était une armée montée sur des chevaux. Et je l'entendais dans ma tête. Et j'ai vu cette armée, elle était remplie de feu. Pas un feu qui détruit, mais un feu de puissance. Et j'ai vu une armée en feu. Et tout d'un coup, j'ai entendu cette voix qui résonnait, qui dira, mais qui ira pour nous? Et ça m'a bouleversée. Mais Seigneur, oui, qui ira pour nous au-delà de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Au-delà de notre confort, qui ira pour nous? Cette armée-là, c'est la puissance de Dieu pour nous qui avançons pour son royaume. Pour la gloire de Dieu. Alors je vous propose, quand le Saint-Esprit il parle, il attend une réponse, il attend qu'on se positionne. Peut-être que le Saint-Esprit ce matin, vous êtes dit, oulala, mais cette intimité-là avec Dieu, je ne la connais pas, je voudrais, mais je ne la connais pas. Si c'est votre cas, vous pourrez vous avancer, il y a des personnes qui pourront prier pour vous. Priez pour vous. Le royaume de Dieu est proche. Il s'est approché. Et il attend que des gens viennent et disent « Oui, je veux que tu sois mon roi. » Et il ne nous laisse pas seuls, il nous remplit de son esprit pour cette mission. Et peut-être que ce matin, le Saint-Esprit l'a éveillé des choses dans votre vie. Vous vous dites oh, « Je sens que le Saint-Esprit, parce que ça fait écho à des choses que Dieu vous a déjà dit sûrement. Oui, je veux m'engager plus. » Dans la prière, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Le Seigneur, il vous appelle à vous positionner. On ne va pas faire un appel là pour ça maintenant, mais on va prendre un temps pour prier. Que dans votre façon de prier, vous montriez que vous faites un pas en avant dans ce que le Seigneur, il veut pour vous. Donc on va prendre un temps pour prier. Pour notre chère France. Je ne suis pas française, moi je suis suisse. Et quand je suis venue ici, j'aimais plus la Suisse que la France. Mais j'aime la France maintenant. J'aime la France, j'aime les Français. Et je veux voir Dieu manifester dans ce pays. Au-delà de ce qu'on peut penser politiquement, au-delà de tout ça, je veux voir ton règne, Seigneur, dans ce pays. Ta gloire venir. Un déversement puissant de ton esprit, des signes, des miracles et des prodiges pour ta gloire. Guide-nous, Seigneur, ce matin, par ton esprit, à prier selon ta volonté. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut se lever. Et Thomas, il va nous conduire après aussi dans un temps de prière, mais peut-être qu'on peut se lever. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Parce que c'est toi qui connais les pensées du Père et tu viens nous les montrer maintenant. Et on veut te dire qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur de ce qui nous attend devant. On n'a pas peur de l'opinion publique. On n'a pas peur des choses qui aujourd'hui pourraient nous persécuter. Mais on a confiance en la puissance de ton royaume. Viens nous parler, Saint-Esprit, ce matin. Viens mettre tes prières dans nos tripes. On aime ce pays. On veut te voir glorifié. Que ton nom soit reconnu comme saint. Que ton nom soit reconnu comme saint. Oh Seigneur, nous, on ne veut pas non plus être du politiquement correct. On ne veut pas être bien rangé. On veut juste être saisi par la puissance de ton esprit. Et recevoir l'assurance pour communiquer ta bonne nouvelle, ta nouvelle d'amour, ta nouvelle de justice, ta nouvelle de paix. Commencez à prier pour la France. Dans vos cœurs, mais pas que dans vos cœurs aussi, avec votre bouche, on peut prier ensemble.